Les parents et les adolescents ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde. Parfois, ces divergences se transforment en de véritables conflits de générations. Alors comment expliquer ce phénomène? Quelles pistes pour améliorer la situation? La gestion des conflits entre parents et adolescents, c'est le thème de notre séquence éducation de ce matin avec une invitée. C'est Pascal Roux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue et coach pour adolescents à Genève et à Nyon. On a l'impression que l'adolescent recherche constamment le conflit avec ses parents. C'est plus qu'une impression où on se trompe.
D'abord, il me paraît important de parler de quoi parle-t-on quand on parle de conflit. En fait, il y a trois ingrédients au conflit. Il y a d'abord une opposition d'opinion, c'est-à-dire on n'est pas d'accord en termes d'idées. Il y a souvent des émotions négatives relativement fortes, puissantes. Et puis, il y a un ingrédient fondamental qui est cette idée de vouloir soumettre l'autre à son opinion. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un sans forcément être en conflit. On peut dire, non, moi je ne suis pas d'accord, puis tout va bien. Donc c'est cette idée de vouloir soumettre l'autre à son opinion qui va faire la différence et qui va déclencher le conflit. Donc ça arrive parfois effectivement que les parents et les adolescents rentrent dans ce type de rapport de force. C'est un rapport de force puisque je vais chercher à me prouver que j'ai raison et que toi tu as tort.
Mais ça peut être dans un sens comme dans l'autre.
Et ça peut être dans les deux sens, absolument. Pour revenir à votre question, l'adolescence c'est la période d'autonomisation. Donc l'adolescent cherche à se différencier du parent et il va le faire par l'affirmation. Donc il cherche à s'affirmer. Donc ça peut générer le conflit. C'est dans cette affirmation qu'effectivement on va rencontrer ce conflit.
Donc l'ado il cherche pas forcément le conflit, c'est en essayant de s'affirmer qu'apparaît le conflit.
Oui, c'est ça. C'est l'adolescent, lui, il a pas forcément envie de vivre la dispute. Simplement, il a besoin, lui, de s'affirmer pour pouvoir se positionner. Il va apprendre à se connaître à travers.
Mais c'est comme ça qu'il va se construire finalement.
Il va se construire au travers de la relation avec l'autre. C'est-à-dire que on apprend à se connaître en étant en relation avec l'autre, y compris dans le conflit. Donc effectivement, il va se positionner. Puis le parent, en général, c'est l'acteur idéal pour ça, puisque il est le plus proche. Donc l'adolescent va chercher à se positionner vis-à-vis de lui, puisque c'est cette personne-là qui est importante pour lui.
Ça peut être les parents, les profs, les copains, mais c'est quand même plus souvent les parents.
C'est souvent les parents parce que c'est les plus proches en termes d'intimité. C'est aussi au sein de la famille qu'il y a des enjeux. Donc le parent est souvent privilégié du conflit, effectivement.
Mais est-ce que c'est un passage obligé? Est-ce qu'on est obligé d'être en conflit avec son ado pour que celui-ci grandisse et acquiert une certaine autonomie?
Mais je crois qu'il y a une fausse croyance qui est que le conflit n'est pas normal. Je crois que le conflit est absolument normal. On a l'impression que quand il y a du conflit, c'est que ça va pas. Et que quand tout va bien, il n'y a pas de conflit. En fait, ni l'une ni l'autre de ces affirmations ne sont vraies. C'est-à-dire qu'il peut ne pas y avoir de conflit sans pourtant que la situation se passe bien. Et inversement, le conflit, c'est une manière de se positionner, c'est une manière de se rencontrer, c'est une manière de s'affirmer. Donc ce sont des choses qui sont absolument normales. Donc je pense que un passage obligé, je ne sais pas, il y a des adolescents qui ne sont pas dans ce type de rapport de force. Ce n'est pas une obligation. Mais c'est souvent quelque chose de positif. On voit le conflit comme quelque chose de négatif. Mais ça peut être quelque chose de positif puisqu'il est structurant. Il est structurant pour la personne et il est structurant pour la famille puisque ça permet aussi de se positionner et de poser des règles du jeu de fonctionnement.
Mais nous, on a de la peine à voir le conflit comme quelque chose de positif.
Mais je pense que ce qui est le plus difficile à percevoir, c'est qu'on ne perçoit que le sommet de l'iceberg, c'est-à-dire la partie conflictuelle qui est douloureuse. Je rappelle que dans la définition du conflit, il y a des émotions négatives, donc c'est désagréable. Donc on ne perçoit que ça. Mais en fait, si on va chercher ce qu'il y a derrière un conflit, il y a des choses bien plus intéressantes. Le conflit, c'est une occasion pour un adolescent, par exemple, d'exprimer son besoin. C'est une façon. Il va pas y dire j'ai besoin de. Il va dire je veux ça. Et c'est ce qui va générer le conflit. Mais si vous allez chercher derrière quelle est l'intention positive que peut avoir un adolescent quand il cherche à sortir le samedi soir ou quand il cherche à ne pas faire ses devoirs ou ne pas faire le ménage, etc. Si vous cherchez l'intention positive de ce comportement, vous allez voir que derrière, il défend des choses importantes pour lui. Donc c'est l'occasion, encore une fois, de se définir, de définir qui je suis et comment je me positionne vis-à-vis de l'autre.
Donc, si je vous comprends bien, Pascal, quelque part, ce que vous voulez nous dire ce matin, c'est que le conflit, c'est une forme de communication.
Absolument. Souvent, on a le sentiment que Il faut éviter à tout prix le conflit parce que c'est quelque chose de désagréable. Pour moi, il y a bien pire que le conflit. Le conflit, c'est quand même une communication, même si c'est une communication inadéquate, puisqu'on va souvent hurler ou se dire des horreurs parfois. Donc la communication peut être inadéquate. En revanche, ça reste une communication. Pour moi, il y a bien pire au sein des familles. Il y a le silence, il y a le fait qu'on ne se parle plus, le fait qu'on ne se parle qu'avec violence, où là, il n'y a plus rien qui passe. Et pour moi, c'est bien pire que le conflit.
Mais en même temps, les conflits peuvent emmener jusqu'au clash. Il peut y avoir aussi une situation de non-retour.
Alors ça peut arriver qu'effectivement ça aille jusqu'au clash. Souvent, ça n'est pas un conflit qui amène au clash. Souvent, c'est un conflit, des conflits non résolus à répétition. Souvent, on pense que quand la dispute s'arrête, le conflit s'est arrêté. C'est une erreur. C'est-à-dire qu'un conflit non résolu, c'est un conflit où toutes les parties ont quand même trouvé un terrain sur lequel elles sont OK. Donc ça veut dire que résoudre un conflit, ça n'est pas qu'il s'arrête, c'est dire je prends en compte les positions de chacun et j'essaye de négocier. Ça ne veut pas dire qu'en tant que parent, je vais lâcher. Ça veut dire, si je ne suis pas d'accord avec ce que me demande mon adolescent, mais je dis non. En revanche, si je prends en compte l'intention qu'il y a derrière, quelle est sa demande, quel est le besoin, ben je vais pouvoir prendre en compte la personne, même si je m'oppose toujours au projet. Et là, le conflit peut se résoudre. S'il n'y a pas de résolution dans le conflit, ça va s'entasser. C'est l'image du volcan, hein. C'est-à-dire on met un couvercle pour éviter que ça sorte. Donc ça ne sort plus, il n'y a plus de dispute. Par contre, ça s'accumule. Et plus ça s'accumule, à un moment donné, comme les volcans, ça explose. Et souvent, l'explosion n'est pas en adéquation avec le déclencheur. On est surpris, on ne s'attendait pas à. Et puis, en fait, on se rend compte que rien n'a été résolu. Donc je pense qu'il y a... L'importance de régler au fur et à mesure les choses qui viennent est absolument fondamentale dans les familles. Et souvent, on ne le fait pas par débordement, parce qu'on est pris par plein de choses, parce que ce qui est important, c'est que ça s'arrête. Mais l'accumulation est en fait pour moi le plus dangereux.
Mais est-ce qu'on peut prévenir les conflits? Vous le disiez tout à l'heure, on n'aime pas franchement les conflits. Mais est-ce que, je ne sais pas, dans la préadolescence, on peut faire quelque chose avec ses enfants pour ne jamais vivre ces conflits avec lui, une fois ado?
Alors je crois que le conflit, encore une fois, c'est normal, hein. C'est quelque chose de normal. Donc vouloir à tout prix éviter le conflit n'est pas une bonne idée. C'est souvent là qu'on va, on va être au devant de difficultés. Je crois qu'on peut prévenir la quantité ou l'intensité ou les conséquences à long terme des conflits en étant dans l'écoute, le dialogue, hein, prendre en compte son adolescent et son enfant d'une manière générale. À chercher son intention positive, ça paraît parfois un peu étonnant en disant mais il fait n'importe quoi, il faut que je trouve son intention positive. Ça paraît ridicule. Et en même temps, si je suis moi dans cette position en tant que parent de dire mais qu'est-ce qu'il cherche à obtenir? Qu'est-ce qu'il cherche de bon pour lui à obtenir? Je ne suis pas tout à fait dans la même position que si je me dis il cherche à m'embêter, il cherche à ne pas me il ne me respecte pas, il ne m'aime pas. Du coup, je ne me positionne pas de la même manière. Donc déjà, chercher cette intention positive. Et puis je crois que ce qui est, comme je disais tout à l'heure, le conflit, c'est la recherche de satisfaction d'un besoin. Si j'apprends à mon enfant, et si j'apprends moi en tant qu'adulte, à nommer mes besoins et à pouvoir dire « mais moi j'ai besoin de ça » plutôt que d'agir dans la frustration, puisque si mon besoin n'est pas satisfait, je vais être frustrée. Donc si j'apprends à mon enfant à nommer ça, il va plutôt dire « mais j'ai besoin de sortir samedi soir parce que j'ai besoin de voir mes amis et que c'est important pour moi », mais il sera du coup plus dans la nécessité de tout casser pour exprimer sa frustration. Donc plus je vais pouvoir nommer mon besoin, moi j'ai besoin de casser. C'est un peu schématisé, mais c'est un peu ça l'idée. Et si j'apprends ça régulièrement, enfin très rapidement à mon enfant, je vais lui apprendre à nommer, à savoir ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et moi je vais lui donner le sentiment qu'il est pris en compte. Ça ne veut pas dire encore une fois que je vais... forcément
lâcher.
Accéder
oui.
À tout. Je suis pas en train de dire à accepter tout ce qui est demandé. Mais la nommer est déjà une première étape.
C'est pas parce qu'il traduit une émotion qu'il faut entrer en matière, c'est ça?
Oui, absolument. Ce qui est important, c'est qu'il puisse s'exprimer. Ça veut pas dire que je vais être d'accord.
Pourtant, certains parents, j'ai pas envie de dire, ne sont pas sévères, mais lâchent un tout petit peu. Il y a mille et une raisons, hein, on peut les comprendre. Lâchent un tout petit peu en disant, bon, ok, tu sors samedi. Être copain, avoir une relation copain et être un peu plus laxiste, je pense que c'est pas la solution non plus.
Non, ça c'est alors, évidemment que je vais peut-être passer pour une rabat-joie, mais c'est vrai que ça c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est-à-dire que si les parents, je crois que quand on parle de psychologie et quand on parle d'éducation, relation, je crois que ce qui est important, c'est l'équilibre des forces. Et je crois que c'est tout aussi important de maintenir une belle qualité de relation dans le lien avec son enfant, mais aussi maintenir le cadre, le respect des règles. Et c'est un équilibre entre les deux. Si je privilégie la relation, c'est-à-dire je vais pas baster sur des choses qui sont importantes, parce que ce qui est important, c'est que mon enfant m'aime. Je la fais de courte, mais c'est un peu ça. Je vais créer du dysfonctionnement chez mon enfant et je vais créer aussi une insécurité. La règle, la loi, la manière de fonctionner à la maison, c'est de la sécurité. Donc si je privilégie la relation, je vais créer de l'insécurité. Si au contraire je suis trop cadrante, je vais créer un sentiment de dictature qui va générer soit de la soumission chez l'enfant, soit de la rébellion. Puis on n'a ni envie d'un enfant soumis, ni d'un enfant rebelle. Donc c'est l'équilibre des deux, c'est-à-dire c'est à la fois je prends en compte son besoin parce qu'il est quelqu'un d'important pour moi et que je l'aime, et que je le lui dis, je prends soin de la relation, et à la fois je suis cadrante parce que je suis consciente que c'est important qu'il ait un cadre. Et c'est cet équilibre entre les choses. Et le troisième ingrédient de tout ça, c'est cette idée d'expliquer pourquoi. Pourquoi je fais les choses? Pourquoi je dis non à une sortie? On pense souvent à tort que les adolescents savent. Alors, ils connaissent les règles, ça c'est sûr, mais ils ne savent pas toujours pourquoi. Pourquoi on fait les choses et pourquoi on leur impose des choses. Donc, c'est important qu'ils comprennent l'intention, le sens. Et ces trois ingrédients-là font que... je peux poser des règles tout en maintenant le lien de la relation et que l'enfant comprenne.
Bon, on a beaucoup parlé des parents, là, Pascal Roux, mais c'est aussi aux adolescents de changer le comportement. Qu'est-ce que vous dites, vous, aux jeunes qui nous écoutent et qui sont peut-être en guerre avec leurs parents ?
Je leur dis qu'ils ont une chose à apprendre qui est fondamentale, c'est la notion de responsabilité. C'est-à-dire qu'ils sont, à partir d'un certain âge, ils sont responsables des conséquences de leurs actes. Donc bien sûr que ils peuvent rentrer en conflit avec leurs parents, avec leurs profs, avec les personnes qui sont dans l'entourage, mais que ce qui est important, c'est qu'ils réalisent que chaque chose qu'ils font, chaque choix qu'ils font, la manière dont ils vont exprimer les choses, va avoir des conséquences. Enfin, tout ça va avoir des conséquences sur la relation et sur leur vie future. Donc définissez de quoi avez-vous besoin, exprimez-le de manière positive plutôt que en fracassant tout ce qui ou en se mettant en échec, par exemple. Souvent, j'ai en consultation des adolescents qui se mettent en échec scolaire parce que c'est leur manière de dire de qu'ils existent. Voilà. Donc, exister autrement qu'en vous mettant en échec et puis apprenez à dire de quoi vous avez besoin et apprenez à négocier, à lâcher un bout aussi de votre côté.
Merci pour toutes ces pistes, Pascal Roux. Je rappelle que vous êtes psychologue et coach pour adolescents à Genève. On vous retrouve le 19 novembre pour un sujet sur le respect. Et en attendant, les auditeurs peuvent vous retrouver sur votre site. C'est pascal-roux.com. Je vous souhaite une bonne matinée.
Merci.
Radio Suisse Romande, la première. On en parle sur rsr.ch.